Iroha Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 13 juin 2023. Il est 18h30 temps universel. Voici le sommaire. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est en ce moment face à la justice. Il est inculpé pour sa gestion des secrets d'État après sa présidence. Au Cameroun, John Frundi, opposant historique au président Paul Biya, est mort des suites d'une longue maladie à 81 ans. À suivre, quelques réactions dans les rues de Yaoundé.
Ce monsieur nous a fait rêver en 1990, donc nous avons gardé de lui une image très positive parce que c'est à partir de John Frundi qu'on a su qu'il y a de l'opposition au Cameroun.
En Guinée, la justice relaxe trois figures de la société civile poursuivies pour attroupement illégal et destruction des biens publics et privés en lien avec une interdiction de manifestation par la junte au pouvoir. Au Nigeria, au moins 23 personnes sont mortes dans l'état du Plateau lors d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs. À suivre aussi les nouvelles économiques et les sports, mais pour commencer, le journal. Commençons par l'actualité américaine. L'ancien président Donald Trump est en ce moment dans un tribunal fédéral de Miami, en Floride, pour une nouvelle comparution. Inculpé cette fois-ci pour sa gestion de secrets d'État après sa présidence, il a prévu de plaider non coupable. Jacques Aristide.
Donald Trump est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, incluant des informations sur des armes nucléaires. Il fait face à 37 chefs d'inculpation, dont la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignages. Il a toujours qualifié ce dossier de chasse aux sorcières, visant à entraver sa candidature à la présidentielle. C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. La foule et les médias sont présents depuis tôt ce matin devant le tribunal. Bon nombre de personnes ont même attendu toute la nuit pour faire la queue dans l'espoir d'entrer dans la salle d'audience. Des partisans de Donald Trump sont également là pour le soutenir, affirmant que l'ancien locataire de la Maison-Blanche est victime d'une machination. Ce rendez-vous provoque des craintes en matière de sécurité. Nous prenons cet événement très au sérieux, a souligné Manuel Morales, le chef de la police de Miami. Comme après sa comparution à New York en avril dernier, Donald Trump a prévu une allocution dans le New Jersey plus tard dans la soirée.
Le dirigeant de facto du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, refuse de s'asseoir à la même table que son rival, Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé ce mardi un responsable soudanais après qu'un bloc régional a évoqué la possibilité d'une rencontre entre ces généraux en guerre. Dans les circonstances actuelles, Burhan ne s'assoira pas à la même table que Emeti, a déclaré l'officiel soudanais sous couvert de l'anonymat. Il faisait référence à la proposition de médiation de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, le bloc régional d'Afrique de l'Est. Lors d'un sommet lundi à Djibouti, l'IGAD a annoncé que le Kenya allait présider un quatuor comprenant l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan du Sud pour tenter de résoudre le conflit au Soudan où les combats se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Au Nigeria, des hommes armés ont tué ces derniers jours au moins 23 personnes dans le centre du pays. Dernière violence en date dans cette région, marquée par des affrontements meurtriers récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Les détails avec Alexandrine Olognon.
Deux éleveurs ont été tués dimanche avant que 21 agriculteurs ne soient abattus plus tard dans plusieurs villages, selon la police régionale. Dans un communiqué, le gouverneur de l'État du Plateau s'est dit attristé par ces meurtres, dénonçant une situation sécuritaire très alarmante. L'État du Plateau a été le théâtre d'une recrudescence d'attaques ces derniers mois. En mai, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs milliers d'autres déplacées après des attaques dans l'État, selon des responsables locaux. L'enchaînement de meurtres suivi d'actes de représailles a donné naissance dans la région à une criminalité plus large, avec des gangs qui mènent des expéditions ciblées dans des villages, se livrent à des enlèvements de masse et à des pillages. Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de conflits et de tensions autour de l'exploitation de la terre et des ressources en eau entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs.
Au Mali, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, a revendiqué une attaque récente d'un convoi de la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, dans laquelle deux casques bleus ont été tués près de Tombouctou. Le GSIM a tendu une embuscade à un convoi de l'ONU vendredi à l'ouest de la ville de Ber, a rapporté la plateforme de propagande Al-Zalaka selon le site internet de Site, une ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Le convoi a d'abord heurté une mine avant d'essuyer des tirs, avait indiqué la MINUSMA. Deux casques bleus burkinabés ont été tués et 7 gravement blessés selon l'ONU. Al-Zalaka fait état d'informations selon lesquelles l'attaque a fait des morts et des blessés parmi les casques bleus sans en préciser le nombre. Le secrétaire général de l'ONU a recommandé ce mardi au Conseil de sécurité de reconfigurer la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali. Dans son rapport, Antonio Guterres recommande au Conseil, qui doit voter sur cette question le 29 juin, de prolonger d'un an la mission, mais suggère de rationaliser les tâches de la MINUSMA autour d'un ensemble limité de priorités afin d'en améliorer l'efficacité globale jusqu'à la fin de la transition politique prévue pour mars 2024. Je compte user de mon autorité pour reconfigurer la mission et déployer le personnel de la composante civile et de la composante personnelle en tenue là où il est le plus nécessaire sur la base des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord et de la transition politique, précise-t-il. Au Cameroun, John Frundi, l'un des opposants historiques au président Paul Biya, est décédé à 81 ans des suites d'une longue maladie. John Lyndon.
Le président et fondateur du Social Democratic Front, premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale, est mort lundi peu avant minuit, a précisé le SDF dans un communiqué. John Frundi a été à 3 reprises candidat malheureux contre Paul Biya pendant les élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011. Le SDF est le premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale élu en 2020 avec 5 sièges, mais il en avait 18 dans la précédente législature. Il a perdu de son influence ces dernières années face au tout-puissant RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya, 90 ans, et qui dirige le pays depuis 1982. John Frundi avait commencé en politique dans les années 1980 au sein du parti de M. Biya avant de fonder le SDF en 1990. Il avait d'abord été marchand de fruits et légumes, puis libraire. Né le 7 juillet 1941 à Baba 2, une commune limitrophe de Bamenda, John Frundi avait dans la crise anglophone soutenu l'idée d'une solution fédéraliste avancée par les plus modérés des séparatistes, une idée rejetée par le pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a estimé lundi que l'Afrique ne pouvait pas rester silencieuse face au conflit en Ukraine. Face à un tel drame, l'Afrique ne peut pas rester silencieuse ou indifférente, a déclaré le chef de l'État congolais lors d'un point de presse en marge d'une visite d'État à Abidjan en Côte d'Ivoire. Écoutons un extrait de sa déclaration.
Des géants, nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples, l'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Et il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région, d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, que 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix, tout au moins d'apaisement.
Précisons que M. Sassou Nguesso fait partie d'une mission de plusieurs présidents africains qui doivent se rendre à Kiev et à Moscou vendredi et samedi où ils rencontreront les présidents Volodymyr Zelensky puis Vladimir Poutine. Et puis l'offensive ukrainienne est en cours sur plusieurs secteurs du front, a dit ce mardi le président russe Vladimir Poutine, reconnaissant que son pays aurait pu être mieux préparé aux attaques de drones et d'artillerie sur son territoire à partir de l'Ukraine. C'était au cours d'une réunion avec des correspondants de guerre russes. Il a néanmoins ajouté que l'armée ukrainienne subissait des pertes quasiment catastrophiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Ollognon.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue Vladimir Poutine. Lors de ce déplacement, le président algérien participera également aux travaux du Forum économique international à Saint-Pétersbourg qui se tiendra du 14 au 17 juin. Les échanges commerciaux entre Moscou et Alger avoisinent les 3 milliards de dollars et se basent en grande partie sur les constructions mécaniques, la métallurgie et l'agroalimentaire. Aux États-Unis, l'inflation a fortement ralenti en mai. Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,1% contre 0,4% en avril. Selon l'indice CPI publié ce mardi par le département du travail, l'inflation sur un an est conforme aux attentes mais baisse plus que prévu sur un mois puisque les analystes tablaient sur 0,4% sur un mois selon le consensus de MarketWatch. Le numéro 1 mondial des plateformes audio Spotify a écopé ce mardi d'une amende de 5 millions d'euros des autorités suédoises au titre du règlement général sur la protection des données. L'entreprise n'a pas communiqué de manière suffisamment précise sur la manière dont elle utilise les données de ses utilisateurs. C'est ce qu'a estimé l'autorité suédoise de la protection des données. Spotify va faire appel de la décision.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Denver est sur le toit de la NBA.
Oui, tracté par le monumental Nikola Jokic, logiquement désigné MVP de la finale, les Nuggets ont décroché leur premier titre de champion de leur histoire. Denver a arraché la victoire décisive 94-89 aux dépens du Heat lors du match numéro 5. Les Nuggets s'imposent finalement dans cette série de finale 4-1, mais que cet âpre cinquième match fut compliqué à domicile pour Denver. Terriblement maladroit à longue distance, 5-23 et au lancer franc, 13-23. En face, Jimmy Butler a tardivement réagi dans le dernier carton, inscrivant 13 de ses 21 points en 3 minutes, mais il a fini par craquer comme son équipe, permettant à Denver de célébrer son premier titre de champion NBA. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
En football, demain mercredi débutent les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
3 matchs au programme, Soudan du Sud, Gambie, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau et Guinée-Égypte. Cette dernière rencontre délocalisée à Marrakech, faute de stade homologué en Guinée, est une lutte pour la qualification, mais aussi une bataille pour la suprématie dans le groupe D. Les deux équipes comptent 9 points chacune. Le dimanche 18 juin, le Gabon accueille la RDC au stade de Franceville. Malgré leur place de leader du groupe I, les Panthères ont besoin d'une victoire à domicile face aux Léopards pour assurer leur qualification. Le sélectionneur Patrice Neveu s'est entouré de tous les cadres de l'équipe en rappelant Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui avaient marqué leur disponibilité à réintégrer la sélection nationale après avoir pris leur distance.
Je suis satisfait, je dirais que c'est quelque chose dans la mesure où ça... C'est quelque chose que les joueurs souhaitaient. Donc bien évidemment que la porte étant restée ouverte, c'est avec plaisir que moi-même et leurs coéquipiers, on va reprendre le travail avec eux pour aller chercher cette qualification surtout. Donc ça, c'est pas du tout, il n'y a rien d'écrit à l'avance. C'est-à-dire que le positionnement, la titularisation, même si effectivement, en parlant clairement, il y a des idées qui se dégagent, mais après il y a le stage qui est là, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte.
Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Match à enjeu également dimanche dans le groupe G, celui du Mali.
Le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sékouchel, a convoqué 28 joueurs pour le match face au Congo, deuxième de la poule G avec 6 points derrière le Mali, premier avec 9 unités. Le coach malien dit s'attendre à une rencontre difficile.
On s'attend à un match difficile, un contexte compliqué. C'est à nous déjà de nous mettre dans de bonnes conditions pour bien aborder ce match et tout de suite d'être très ambitieux là-bas. Ça va pas être un match facile. On a la capacité et les possibilités pour être très ambitieux là-bas. On va y aller avec beaucoup d'envie, puis après on fera les comptes à la fin des 90 minutes.
Eric Sékouchel, sélectionneur des Aigles du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. L'ex-président américain Donald Trump est attendu ce mardi dans un tribunal fédéral en Floride pour une nouvelle comparution historique. Le milliardaire de 76 ans est entre autres accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche où figuraient notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires. Pour une analyse, Nanita Lani a joint Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College à New York.
Donald Trump, en tant que président, avait évidemment accès à tous les documents secrets de quelque nature, que ce soit militaire, scientifique ou autre. Donc il a accumulé ces milliers de documents, dont la plupart n'ont jamais été déclassés, et qui donc, techniquement, au moment où il n'était plus président, redevenaient la propriété du gouvernement des États-Unis à travers les archives nationales. Mais au lieu de les rendre, il a gardé ces documents. Et lorsqu'il lui a demandé s'il les avait, il a nié qu'il en avait autant. Et lorsqu'il a été prouvé qu'il en avait autant, il a dit qu'il ne savait pas où ces documents se trouvaient. Lorsque ces documents ont été dénichés dans son domicile personnel en Floride, il a décidé de contre-attaquer pour dire qu'en fait, tous les anciens présidents ont fait pareil. Et même au-delà des anciens présidents, les anciens vice-présidents, etc. Et donc, il n'a fait que ce que ses prédécesseurs avaient fait. Et il ne comprend pas pourquoi le gouvernement américain va aller en justice dans un cas qui, pour lui, est un cas tout à fait ordinaire et personne n'a jamais été poursuivi pour ces délits.
Mais quelles peuvent être les conséquences de cette implication pour Donald Trump?
Il peut aller en prison. Il y a plusieurs dizaines d'années de prison risquées selon la culpabilité et la qualité des documents en question et aussi évidemment la latitude, l'insistance qu'il a eue pour ne pas répondre aux injonctions des archives nationales. Deuxièmement, évidemment, son image est ternie. Non seulement son image est ternie parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très regardant quant à la sécurité des États-Unis, parce qu'il est maintenant prouvé, qu'il sera prouvé que c'est un menteur et que troisièmement, il a volé ses documents, en fait, il a voulu les voler. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient une sorte de crime moral que qui va faire confiance à nouveau à quelqu'un qui non seulement a pris ce qui ne lui appartenait pas, a caché ce qui ne lui appartenait pas. On soupçonne même qu'il ait détruit ou qu'il ait voulu détruire certains de ses documents. Et en fin de compte, n'a aucune défense acceptable. Et donc, cette lenteur, cette capacité de vouloir résister à une autorité et qu'il se met au-dessus de la loi, et ça, c'est un dommage qui sera très difficile à réparer.
Mais professeur, est-ce que ça pourra l'empêcher d'être candidat à la présidentielle comme il veut être candidat encore?
Non, certainement pas. À moins, évidemment, maintenant qu'il devienne un prisonnier, qu'il soit incarcéré, à ce moment-là, il perdra une partie de ses droits civiques et en conséquence de la perte de ses droits civiques en tant que condamné et emprisonné, il se peut qu'il y ait quelques aspects d'inéligibilité, encore que la loi américaine est très floue de ce point de vue-là, mais c'est évidemment un risque. Mais les observateurs s'accordent à dire qu'il va tout traîner en longueur, il va se présenter en martyr et il va rester dans le jeu. Et même s'il n'est pas élu, il va essayer de contribuer à élire quelqu'un en lui faisant promettre qu'il va le gracier dès la première minute où il sera au pouvoir. pouvoir.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College à New York. Au Cameroun, John Frundi, le président du SDF, Social Democratic Front, est décédé la nuit dernière à Yaoundé, selon un communiqué du vice-président de ce parti, Joshua Ossi. De nombreux Camerounais saluent la mémoire et le parcours politique de ce libraire anglophone devenu, dans les années 90, un farouche opposant à Paul Biya. À Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Plusieurs Camerounais ont appris ce matin le décès de John Frundi, le président du Social Democratic Front, SDF. Au centre administratif de la capitale, le souvenir de l'opposant est encore dans les mémoires. Daniel Ekoka, agent au ministère du contrôle supérieur de l'État.
Ce monsieur nous a fait rêver en 1990, donc nous avons gardé de lui une image très positive. Parce que c'est à partir de John Frundi qu'on a su qu'il y a de l'opposition au Cameroun. Il a pu tutoyer le parti au pouvoir.
Le 26 mai 1990, John Frundi, libraire de profession, personnage très peu connu de la scène politique, défie le pouvoir en place et organise à Bamenda, sa ville natale, une marche pour l'instauration des libertés publiques et d'associations au Cameroun. Joseph Zé, syndicaliste.
Il est même présenté comme le père de la démocratie. Parce qu'à la création de son parti, je crois que son parti avait perdu 4 à 6 militants. Parce qu'il était interdit de manifester un autre son politique. Mais il l'a fait et ça a poussé le pouvoir en place à voter des lois sur les libertés.
Le temps semble avoir suspendu son vol au siège régional du Social Démocratique Front à Yaoundé. Par l'ombre d'un personnage du parti, lors de notre passage, seul Moïse Atoudi, un militant du SDF, traîne par là et exprime sa tristesse sur la disparition de John Frundi.
Nous sommes très affectés parce que nous avons perdu l'homme de l'année. Nous sommes vraiment affectés. On ne sait pas si on aura encore quelqu'un d'autre comme lui, mais que Dieu nous aide.
La résidence de John Frundi, en Kolfoulou, au nord de Yaoundé, est le lieu de convergence d'un plus grand nombre de personnes, des membres de la famille, des leaders de partis politiques, responsables du parti du SDF, arrivent les uns après les autres. Félix Gildal Mbida Belinga, président régional du SDF pour la région du Sud, pleure un leader aux multiples casquettes.
C'est un père et un combattant, une personne honnête, quelqu'un qui a défendu les causes, qui nous a toujours conseillé, qui nous disait toujours qu'il faut être courageux et les choses vont changer le moment venu.
John Frundi a lutté pendant 3 décennies contre le président Paul Biya et s'est vu attribuer 36% de suffrages exprimés contre 39 pour le président actuel. Mais à sa mort, le chairman Frundi n'avait plus l'aura d'antan. Il est Kamga, membre de la société civile.
Et malheureusement, ces 10 dernières années ont plus rapproché M. Frundi particulièrement de M. Biya et du RDPC que du peuple. Que ce fût pour la question de la crise anglophone, ça a été la même chose pour les signatures avec le RDPC au Parlement.
À son décès à 81 ans, John Frundi laisse 2 factions du SDF qui se discutent les rênes du parti. Le différend est encore devant les juridictions. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, les auteurs, diffuseurs et promoteurs de chansons et films à caractère obscène ou portant atteinte aux bonnes mœurs seront désormais sanctionnés. Le ministre de la Culture qui a pris cette décision explique que l'objectif est de mettre fin à ces pratiques qui n'honorent ni la musique ni le cinéma togolais. Au sein de l'opinion nationale, les avis sont partagés. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
À l'annonce de cette mesure, Akleso Aguzu, amateur de musique et conseiller municipal, applaudit des deux mains et apporte son soutien à la décision du ministre de la Culture.
Quand on est dans une société, c'est l'artiste à travers son art qui vient corriger les mœurs. Mais qu'on soit aujourd'hui à assister à des actes et des paroles obscènes de la part des artistes, que des artistes se substituent aux pornographes, c'est tout simplement dangereux. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs et nous nous ne devons pas pousser des actes pour porter atteinte à nos mœurs. C'est en ce sens que nous soutenons la décision du ministre de la Culture.
Les sanctions définies en collaboration avec la Fédération togolaise de musique vont du retrait de la carte du Bureau togolais des droits d'auteur et de l'attestation d'artiste ou de cinéaste à la radiation pure et simple du Registre national des artistes. Le code pénal est aussi évoqué. Pour l'artiste Eric MC, un des pionniers du rap au Togo, les autorités ne doivent s'en prendre qu'à elles-mêmes, car elles ont favorisé l'émergence de cette catégorie d'artistes qu'elles veulent sanctionner aujourd'hui.
Dans les années 2000, il y a eu beaucoup de groupes qui étaient sortis, qui étaient pleinement engagés, conscients. Mais tous ces groupes ont été décapités parce que les textes n'avantageaient pas le système en place. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes se sont mis dans l'amour jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans la vulgarité. Maintenant, on veut les censurer. Moi, je suis pas d'accord. Ils ont poussé à ça. Maintenant, la mayonnaise est cuite, il faut la manger.
Tout en reconnaissant au ministre de la Culture le droit de faire la police dans son secteur, Jerry Tama, écrivain et député à l'Assemblée nationale, craint que cette mesure ne tue le génie créateur des artistes togolais.
Pour moi, je considère que la création artistique aujourd'hui est quelque chose qu'il faut encourager, non pas parce que j'encourage l'obscénité, mais j'encourage le génie créateur. Il faut beaucoup plus agir sur la diffusion que sur la créativité, parce que si par exemple un artiste togolais chante une chanson qui est jugée obscène au Togo, mais qui n'est pas jugée obscène dans un autre pays, il aurait la possibilité de pouvoir la diffuser.
Alain Blaise Junior est présentateur d'émissions de musique sur une radio locale dans la capitale. Il entrevoit des difficultés pour l'application de cette mesure.
Aujourd'hui, ces artistes qui sortent ces genres de chansons, ils ne vont pas vers les radios, c'est sur les réseaux. Et voilà, quelqu'un qui va acheter du méga pour 200 francs, il télécharge, puis il partage entre eux. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont pris une décision, est-ce qu'ils vont l'appliquer? Parce qu'à chaque fois, au Togo ici, on fait sortir des lois, mais on ne les applique pas.
Sur son compte Twitter, le ministre de la Culture, Gbenyon Lamadoukou, a indiqué que grâce à la collaboration avec la Fédération togolaise de musique, ils s'efforceront de garantir aux enfants, adolescents et jeunes togolais un avenir aisant de violence et de dépravation morale. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En basketball, Denver est sur le toit de la NBA, tracté par le monumental Nikola Jokic, logiquement désigné MVP de la finale. Les Nuggets ont décroché le premier titre de champion NBA de leur histoire. Denver a arraché la victoire décisive 94-89 aux dépens du Heat lors du match numéro 5. Les Nuggets s'imposent finalement dans cette série de finale 4-1. Yakuba Ouédraogo.
Dans les rues ou dans le vestiaire, Denver exulte enfin. Les Nuggets arrachent leur premier titre de champion NBA après 5 matchs de la série de finale. Mais que cette 5e rencontre fut compliquée à domicile pour Denver. Le Heat a montré des crocs et fait trembler son adversaire jusqu'au bout grâce à un réveil tardif de Jimmy Butler qui a enfilé sa tunique de super-héros dans le dernier quart-temps, inscrivant 13 de ses 21 points en 3 minutes. Mais il a fini par craquer avec une mauvaise passe et un tir manqué dans les ultimes secondes. Les Nuggets soufflent et peuvent célébrer leur titre qui porte surtout l'empreinte de Nikola Jokic, désigné MVP de la finale. Sa fille dans les bras au moment de recevoir son trophée individuel, le Serbe a eu une pensée spéciale pour toute sa famille.
Yes, not just daughter, you know, my wife who...
Pas seulement ma fille, mais aussi ma femme qui est avec moi depuis le premier jour, même à Belgrade, et mon frère avec qui je vis. En fait, nous avons tous vécu ensemble à un moment donné. C'était donc un cirque. Mais ce sont des personnes qui font partie de ma vie. Et cela signifie beaucoup. Et sans eux, je ne serais pas ici à 100%.
Without them, I'm not going to be here 100%.
Nikola Jokic a encore été géant dans ce match le moins abouti de son équipe, avec 28 points et 16 rebonds, déjà élu MVP de la saison régulière en 2021 et 2022, le Serbe vient de loin.
Je n'allais même pas en parler parce que je ne pouvais pas croire que je serais en NBA. Mais quand je suis arrivé là, j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose.
Cet accomplissement vient couronner une saison quasi parfaite des Nuggets, bouclée à la première place de la conférence Ouest,
préalable à des playoffs où leur domination a été incontestable. Denver, jusqu'ici pas considéré comme une grande franchise de la balle au panier, entre enfin dans la cour des grands, au grand bonheur de ses fans.
On ne nous donne pas le statut d'être une ville de basket, vous savez. Il y a des enfants qui rêvent vraiment de jouer au basket à l'avenir, mais on n'a jamais eu ce statut. Alors c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau jour ici pour Denver.
C'est l'équipe qui le mérite le plus, c'est l'équipe la plus désintéressée. C'est à mon avis la meilleure équipe de l'histoire de la NBA.
Ce trophée récompense aussi le pari de la continuité fait par le propriétaire des Nuggets, Stan Kroenke, adepte de la patience dans un monde d'urgence. Deux Africains célèbrent ce titre NBA avec Denver, les Sénégalais Boniface Ndong et Defi Fall, membres du coaching staff des Nuggets.
C'est la fin de cette édition. Grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci, merci de rester à l'écoute du programme de VOA Afrique. Au revoir.